Et le monde vu par, pour la dernière fois cette année en 2019, le monde vu par Régis Le Sommier de Paris Match qui nous rejoint dans 3 minutes. Mais d'abord Sophie Larmoyer. Sophie, bonjour.
Bonjour Bernard.
Sophie, pour ce dernier regard sur l'international pour 2019, donc vous souhaitez revenir sur un sujet qui a énormément marqué toute l'année, le réchauffement climatique et la prise de conscience désormais planétaire qu'il faut vraiment agir tout de suite et sérieusement.
C'est ce qu'on appelle effectivement un sujet. Une question de survie, alerte certains, ou parfois certaines, très jeunes, Greta Thunberg, remarquée comme la personnalité de l'année en une du Time Magazine.
Oui.
Ça reste une blague pour quelques-uns encore. Je pense évidemment à Donald Trump, qui a signé il y a quelques semaines la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et qui affiche un déni assez spectaculaire. Pourtant, quand on regarde dans le rétroviseur 2019, certains des reportages qu'on a fait cette année sont vraiment édifiants.
Et vous avez choisi d'en rediffuser certains demain à 13h dans les carnets du monde, dont celui qui concerne un séjour dans la ville de Phoenix, en Arizona. Une ville qui subit très directement et déjà le réchauffement climatique.
Oui, on est au sud-ouest des États-Unis d'Amérique, dans une ville où il fait encore près de 40 degrés à l'ombre fin septembre. Et donc, la ville s'adapte et se met de plus en plus à vivre la nuit.
Oui.
Xavier Yvon, notre correspondant, l'a constaté, avec des ouvriers qui démarrent leur journée de travail sur un chantier à 3h du matin, des joggeurs qui sortent à 23h, le zoo qui ouvre à 6h pour permettre aux familles de venir à la fraîche. Là-bas, il est interdit de couper le courant aux mauvais payeurs après qu'une petite dame soit morte de chaud, faute de climatisation. Elle avait une dette de $50. Bref, Phoenix est devenu une sorte de laboratoire qui attire d'ailleurs des chercheurs, qui relèvent les changements de mode de vie et les parades trouvées pour affronter la chaleur.
Très intéressant. Autre illustration au chapitre justement des solutions, les grandes villes essayent de plus en plus de repousser les voitures hors les murs. Mmh. En Espagne, une ville moyenne s'est illustrée.
Oui, Pontevedra en Galice, 80 000 habitants environ, qui fait figure de modèle et de ville où il fait bon vivre. Ce projet d'une ville sans voiture remonte à 20 ans. Un architecte n'en pouvait plus de la circulation étouffante. Il s'est présenté au municipal avec ce programme-là, piétoniser le centre-ville. Il a gagné. Il a d'abord fait construire des parkings aux abords de Pontevedra. Il a mis plus de bus. Et année après année, les zones sans voiture se sont élargies. Presque toute la ville est concernée désormais.
Et la vie des habitants a radicalement changé, du coup,
radicalement. Les gens marchent. Les enfants vont seuls à l'école. D'ailleurs, certaines écoles font même la récré dans la rue. Les petits commerces se portent très bien, car les gens font leurs courses dans la ville, à pied. Ça a des répercussions sur le vivre ensemble, sur la santé des habitants. Bref, c'est tout bénéf.
Et Pontevedra est devenu un modèle.
Oui, beaucoup de maires viennent s'inspirer de ce que la municipalité a mis en place. D'ailleurs, le maire a été réélu au printemps dernier pour un 5e mandat d'affilée.
Ben écoutez, ça aussi, c'est très intéressant et c'est à découvrir ou à réécouter. Pontevedra, la ville sans voiture, ce sera aussi un reportage à retrouver demain à 13h dans les carnets du monde, le dernier carnet du monde de 2019. Il sera forcément excellent avec Sophie Larmoyer. Je vous souhaite un très très bon réveillon et on se retrouve en 2020. Et en 2020, il y aura aussi Régis Le Sommier, bien sûr, puisqu'il est là ce matin, il sera là aussi la semaine prochaine. Bonjour Régis.
Et bonjour Bernard.
Donc je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, et dans Match, le dernier numéro de l'année, il y a un reportage, bon, essentiellement photographique, mais pas que, sur la résurrection de Notre-Dame. Alors ce sont des photos assez impressionnantes, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans Notre-Dame et voir où en sont les travaux de rénovation. Donc c'est impressionnant, mais j'ai l'impression que résurrection, c'est un peu fort quand même, non ?
C'est un peu fort.
Ils sont en plein dedans, là. Ils sont en plein boulot, là.
Oui, on a à peine déblayé. Il y a encore des incertitudes, notamment sur ce fameux échafaudage, parce que vous savez que l'échafaudage qui tenait la flèche, cette flèche qui s'est écroulée, ensuite a brûlé. L'enchevêtrement de poutrelles d'acier ont fondu, se sont fondues les unes sur les autres, etc. Et qu'on s'en rend compte, justement, c'est que c'est un peu ça qui tient l'édifice. Et la façon, il va falloir l'enlever. Alors, ça demande évidemment un nombre de précautions incroyables. Attention, au passage, Notre-Dame n'est pas encore sauvée. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est ça qu'on réalise très bien avec ce reportage.
L'église peut s'effondrer, là ?
Elle peut encore, oui, il y a encore des risques, justement, liés à cet échafaudage. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, que sont en train de faire les ouvriers aujourd'hui ? Ils vont construire un deuxième échafaudage au-dessus, qui va permettre de démanteler le premier. Et ça, ça va être la phase critique, donc il va y avoir encore quelques mois un peu d'incertitude sur l'avenir de la cathédrale.
On voit d'ailleurs une modélisation par ordinateur, là, de ce que ce sera très impressionnant.
Voilà, on explique point par point ce qui a été fait. Alors, ce qui a été fait, évidemment, dans un travail de consolidation, de protection des vitraux qui ont été enlevés. Tout ça a été déjà assez avancé. Le travail de déblayage et puis surtout l'enquête. Ça, c'est une chose qui est quand même incroyable. C'est que on arrive aujourd'hui, plusieurs mois après cet incendie terrible, eh bien, on ne sait pas, on n'en connaît pas encore exactement la cause. Enfin, en tout cas, ce qui a déclenché le motif accidentel est privilégié. Mais pour le moment, tout a été prélevé, les échantillons tous les experts sont autour en train d'essayer de trouver une explication sur ce qui a démarré ce feu catastrophique, ce feu qui s'est terminé par une tempête de feu qui a failli être fatale à la cathédrale, parce que, rappelons-le, et on le montre aussi à travers une des photos, le feu s'est engouffré dans le beffroi nord, donc dans la tour nord. Les poutrelles qui tenaient les cloches, les deux bourdons de 5 tonnes et 6 oui. tonnes en haut, ont failli brûler. Et donc, si ces bourdons étaient tombés, eh bien, le beffroi tombait, le deuxième beffroi et probablement la cathédrale. Donc ça s'est joué à 20 minutes à peu près, la décision finalement de combattre le feu dans cette tour nord. Et nous en montrons aujourd'hui ce qu'il en reste, ou en tout cas l'endroit où, quelque part, la cathédrale a été sauvée.
Voilà, un reportage très visuel dans Paris Match, hein, certes, mais on apprend des tas de trucs à part les photos, bien sûr. Et notamment, j'ai appris aussi que l'inspection du travail est complètement focalisée sur les problèmes de plomb et de décontamination, etc. Et les ouvriers doivent prendre 6 douches par jour.
Oui, c'est voilà. terrible. Dès qu'ils rentrent, dès qu'ils ressortent, voilà, il y a une vraie prise de conscience. Et ça retarde aussi les travaux, évidemment.
Voilà, c'est à lire dans le dernier numéro de 2019 de Paris Match. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, d'être venu en parler au micro d'Europe 1. Je vous souhaite un très bon réveillon et puis on se retrouve l'an prochain.
Donc, merci, bonne année.
Merci beaucoup.